Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, c'est le parcours d'un homme qui est au sommaire de l'émission, puisque je vous propose de découvrir une figure centrale du mouvement Lubavitch, celle du grand rabbin Benyamin Eliyahu Gorodetsky. Cet homme dont les mémoires viennent d'être traduites en français et qui fut le grand rabbin de Kiev a mis toutes ses forces dans la préservation du judaïsme dans l'Union soviétique qui persécutait les juifs et interdisait les institutions religieuses. Il a lutté pour développer des écoles talmudiques et rabbiniques et protéger l'exercice de la religion dans la Russie soviétique. Il a été emprisonné, condamné à l'exil et s'est finalement installé après-guerre à Paris, puis à New York où il continua à travailler pour développer le culte et l'étude juive au nom du rabbin de Lubavitch, Yosef Schneerson. Avec nous pour en parler, son petit-fils, le rabbin Yosef Gorodetsky, qui est directeur du bureau Lubavitch européen. Alors c'est un livre étonnant que celui de votre grand-père, qui raconte la vie d'un homme qui s'est consacré tout entier à la préservation et la diffusion du judaïsme hassidique de Lubavitch. Avez-vous eu le temps de le connaître ?
Oui, merci pour m'avoir ici aujourd'hui. Bien sûr, j'ai connu mon grand-père parce que j'ai vécu à New York et lui... C'est juste à côté de sa maison, et quand il n'était pas en voyage, il était à la maison, on a passé beaucoup de temps avec lui, jusqu'à il y a 16 ans, quand il a disparu. Mais nous, on est à Paris déjà depuis, moi et ma famille, depuis 19 ans, et ça sent des mondes que j'ai pris de place ici à Paris il y a 19 ans.
Et vous avez quelques souvenirs de lui, peut-être des histoires qu'il vous a racontées, des histoires de sa jeunesse ?
En fait, sa jeunesse était comme un petit peu, à l'époque, en Russie. Il restait jamais dans un endroit. Sa famille a toujours voyagé, si vous voulez, à cause de la situation à l'époque. Et à l'âge de 18 ans, il était nommé le grand rabbin de Kiev, comme vous avez mentionné. Et c'est à partir de là qu'il était, il était mis sous l'œil de l'État, autant que grand rabbin de Kiev. C'est tout est providence divine, excusez-moi. Et cet vendredi, c'est le 7 Adar. Et dans son livre, tout au début, il raconte son premier arrêt, si vous voulez, son première fois qu'il était en prison, pas la dernière. C'était la nuit de 7 Adar. Dans la nuit, quelqu'un a frappé à la porte, ou plusieurs ont frappé à la porte. Et bien sûr, c'était la police qui sont venus lui chercher pour les crimes d'être le grand rabbin de Kiev et de diffuser la Torah. Il y a 83 ans. Il raconte qu'il était en prison pour la première fois et normalement c'était prévu qu'il marie avec ma grand-mère le 14 Adar, une semaine plus tard. Alors il racontait que avant, quand son beau-père a demandé la bénédiction pour les dates de mariage au rabbi, le rabbi l'a demandé quelle date vous avez choisi. Il a dit le 14 Adar. Alors il a dit, et qui dit que le Khatan, ça veut dire mon grand-père, va être disponible les 14 Adar. Et c'était ça la fin de discussion. Et le suite était que le 7 Adar, une semaine à peine avant son mariage, il était pris dans la nuit.
Donc effectivement, il y avait un problème de disponibilité pour ce jour-là. Alors peut-être il faut rappeler pour certains de nos auditeurs ce qu'est ce mouvement hassidique Lubavitch qui est né au XVIIIe siècle en Russie, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce mouvement religieux.
Oui, en fait ça a commencé avec le Baal Shem Tov, qui est très connu, qui est le fondateur du mouvement hassidique, qui est le premier pour enseigner le hassidisme. Et lui, il a eu un élève qui s'appelle Magid de Mezritch, qui en fait, le Magid de Mezritch, lui, il a eu beaucoup d'élèves. Il paraît qu'il a eu plusieurs milliers d'élèves au cours des années. Et une de ses élèves les plus connus, c'était le Rabbi Schneer Zalman. Et lui, le Rabbi Schneer Zalman, il a dit, comme il est connu, il est auteur d'une Shulchan Aruch, et il a fait Tanya, le livre Tanya, basé sur le chassidique, la base de chassidique, chassidisme Lubavitch. Et lui, c'était le premier, le Rabbi Schneer Zalman, c'était le premier rabbi de Lubavitch. Et lui, il a fondé le mouvement de Lubavitch, et les autres élèves de Magid de Mezritch, ils ont fondé les autres mouvements chassidisme, comme vous le connaissez aujourd'hui, qui existent en Amérique et en Israël. Et la différence, un petit peu, si vous voulez, il y avait une différence entre chaque mouvement de chassidisme, parce que chaque rabbi, il a enseigné, comme lui, il a compris les enseignements de Baal Shem Tov et de Maggid de Mezritch. Et les grandes lignes, si vous voulez, de Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, c'était « L'amour pour votre prochain, Avat Israël ». Et il a enseigné ça à ses élèves que on est là pour, bien sûr, faire notre travail, mais aussi pour aider nos juifs comme soi-même. Alors, avec les années, il y avait jusqu'à notre rabbi de notre époque, le rabbi Menachem Schneerson, qui était le septième rabbi. Comme vous le savez aujourd'hui, le mouvement Lubavitch est un peu partout dans le monde. Il y avait à l'époque une blague que, où on trouve Coca-Cola, on trouve Lubavitch. Mais après, cette blague n'est plus valable parce que maintenant Lubavitch est même dans les endroits où il n'y a pas de Coca-Cola. Alors, et le but, si vous voulez, bien sûr, c'est d'enseigner le Torah et aider les juifs à faire les mitzvot, etc. Mais surtout d'aider les autres juifs à s'approcher à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, à Dieu. Et de faire leur vie comme ça doit être après le Torah.
Alors, ce qui est assez justement émouvant dans le livre de votre grand-père, c'est d'observer la ténacité, la force qu'il a dans la multiplicité des actions qu'il a mis en place pour préserver justement la vie religieuse en URSS. Et par exemple, son action pour maintenir des bains rituels, les mikvés dans les villes, pour s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à la nourriture cachère, que les écoles puissent être mises en place à la fois pour les rabbins et puis pour les enfants qui veulent faire des études religieuses. Donc, il y a comme ça un éventail d'actions qu'il met en place pour préserver cette vie religieuse que l'URSS essaye d'éradiquer.
En fait, c'est marqué que pour sauver une vie d'un autre juif, on a le droit de couper le Shabbat, ça veut dire de ne pas faire le Shabbat. Alors ça, c'était un peu l'ordre du jour à l'époque en Russie, il faut sauver des juifs. Et sauver des juifs, bien sûr, il y a le côté matériel, bien sûr, donner à manger, à loger, mais aussi le côté spirituel, parce que c'est marqué « Emen kamach en Torah ». S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de blé. S'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de spirituel, et le contraire. Ça veut dire, pour aider un juif, bien sûr, on donne à manger, on lui donne tout, mais aussi, il faut donner la Torah. Il faut donner la possibilité de compléter des mitzvot. Et entre autres, à la base de notre religion, il y a les mikveh, qui est très très importante. Et effectivement, des gens comme mon grand-père, et mon grand-père c'était quelqu'un depuis l'âge de 18 ans, il a commencé ce travail, qui est très jeune, il a vraiment mis sa vie en danger plusieurs fois, comme c'est marqué dans le livre, il y a juste une partie qui est dans le livre, pour aider les autres juifs matériellement et surtout spirituellement, avec le constructeur de mikveh, avec les petites des écoles pour des enfants souterrains et tout ça. C'était vraiment un risque entre vie et mort à l'époque. Parce qu'on rentre en prison, on ne sait pas si on va sortir. Mais même s'ils étaient au courant qu'il y a cette danger, mais comme ils ont eu l'enseignement qu'on est là pour aider un autre juif, si vous voulez, peut-être à tout prix, bien sûr, on ne peut pas nous mettre en danger si on est sûr qu'on ne va pas réussir. Mais on a le droit de prendre des risques pour aider un autre juif. Et c'est ça qu'il a fait toute sa vie.
Oui, parce que ce dont on se rend bien compte dans le livre de Binyamin Gorodetsky, c'est effectivement que tout ce qu'il faisait, il était obligé de le faire dans la clandestinité, puisque la vie religieuse était interdite à cette époque-là en URSS. Et donc il fallait effectivement faire des écoles, mais cacher ces écoles, trouver des pièces vides dans les logements des uns et des autres, imaginer des stratagèmes pour mettre en place cette vie religieuse souterraine, pratiquement.
C'est pour ça qu'il était en prison plusieurs fois, malheureusement. C'est difficile, même s'il n'a pas trop parlé, même son livre qu'il a écrit à la demande du rabbi, parce que le rabbi voulait qu'il écrit le livre, c'était pas de tout son style, c'était pas quelqu'un qui a trop parlé, mais il y a des choses qu'il a quand même racontées, et chaque fois qu'il a parlé, on a compris que c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre si on n'est pas dans la situation nous-mêmes, actuelle. Ça veut dire qu'on vit pas, on n'a pas vécu cette époque nous-mêmes, moi-même, et c'est difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que quand vous dites toute la journée on est en train de chercher un petit coin de se cacher, on entend un bruit qui dans les villes à côté, les policiers sont venus pour chercher les juifs, on va partir maintenant tout de suite, aujourd'hui c'est hors de question, des choses pareilles au moins en France, et c'était toujours un danger. Et ils ont peut-être, on peut dire peut-être de mauvaises habitudes. Ils ont pris des habitudes de vie comme ça, de se cacher, d'être en danger, mais surtout avancer dans le travail d'aider un autre juif.
Alors ce livre est aussi intéressant historiquement parce que votre grand-père raconte aussi comment l'État soviétique a essayé de mettre en place une communauté juive modèle à Leningrad pour enlever la légitimité au rabbin Schneerson de Lubavitch et capter les fonds du joint américain. Il y avait aussi toute une stratégie de la part du gouvernement russe à l'époque.
Vous savez, on raconte une histoire qui, je ne crois pas qu'il est dans le livre de mon grand-père, il y avait le cinquième rabbin de Lubavitch qui est parti une fois parce qu'il n'a pas eu le choix. Ils ont menacé de lui tuer s'il ne vient pas à cette réunion que les gouvernements ils ont fait pour au contraire, on va construire la communauté juive correctement, pas comme ça, etc. Et sur place, il a écouté tout ce qu'ils ont dit. Il a dit, je ne peux plus écouter ça. Pendant les réunions, il est parti retourner dans son hôtel. Le chef de police, bien sûr, il est venu lui chercher. C'était quelqu'un quand même important, le rabbi de Lubavitch. Et il a dit, je ne comprends pas. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut écouter quand même les lois de la pays. C'est pas quelque chose qui est contre la Torah. Si vous écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on demande? C'est quand même dans votre Torah. Il a dit, écoutez, vous me demandez de faire des choses qui sont contre la Torah. Maintenant, si je vous écoute, j'ai un plus gros problème. Parce que le bon Dieu, il m'a dit de ne pas faire ça. Si je ne vous écoute pas, au maximum, je vais être en prison. Alors, le choix entre prison et de ne pas écouter le Torah, ça veut dire le bon Dieu, je préfère d'aller en prison, quoi. C'était le choix comme ça qu'ils étaient obligés de prendre tous les jours, tout le temps. C'était quelque chose de terrible, quoi. Alors, je vais avancer un petit peu parce qu'il est parti de Russie. Bien sûr, c'était un moment terrible. Mon grand-père l'a raconté à Bar Mitzvah, à ma Bar Mitzvah, son dernière fois en prison. Il n'est pas parti par la porte normale. Il est parti, si vous voulez, comme lui, il a dit, il est parti comme un voleur dans la nuit. Parce qu'il a vu que s'il reste en prison, il a entendu des bruits que ça y est, ils ont dit, cet monsieur-là, il est en prison, il fait trop de choses pour la communauté, il faut qu'on lui arrête. Alors il a entendu tout ce bruit-là, il a décidé qu'il faut qu'il trouve une solution pour partir. Alors il a trouvé une solution, il a dit, j'ai donné un peu de, comme il a dit, on donnait un petit peu à cette personne-là, il a eu des renseignements qu'à certaines heures dans la nuit, il y a un train qui passe à côté, etc. Et effectivement, il a réussi, grâce à Dieu, de quitter les prisons dans la nuit comme un voleur. Et de là, il est parti de Russie tout de suite parce qu'il sait s'il va rester en Russie, ils vont lui trouver. Alors, c'était malheureusement une époque où, de son jeune âge, de 18 ans, il était toujours sur la chasse, quoi. C'était, on lui cherche pour des choses, il ne faut pas dire qu'il n'y avait que lui. Il y avait, grâce à Dieu, beaucoup de Juifs qui ont fait beaucoup de bonnes choses, de bon travail. Russie, c'est un très bon endroit. Et voilà, c'était une vie terrible que ma grand-mère, d'ailleurs, qui a partagé cette... Parce qu'en fin de compte, ils sont mariés après qu'il a sorti de prison, pour terminer l'histoire. Et elle a partagé cette vie avec lui parce que c'était normal, ils se sont mariés. Et elle m'a raconté une histoire que... elle était enceinte une fois et pendant cette époque, bien sûr, il était mis en prison et elle a accouché une fille, ma tante. Et elle a donné le nom Freda. Alors elle voulait transmettre les bonnes nouvelles à mon grand-père. Alors je crois qu'une fois par semaine, ils ont eu le droit d'envoyer un gâteau.
Parce qu'à ce moment-là, il était en prison. Il avait été condamné à 3 ans de prison d'exil, en tout cas, dans un camp.
Voilà. Et elle a envoyé les gâteaux de la semaine. Et dans les gâteaux, elle a trouvé... Elle m'a dit, oui, bien sûr, c'est très facile de mettre un papier, mais ils ont coupé les gâteaux pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Elle a trouvé une moyenne, elle m'a expliqué, dans un gâteau, on ne grave pas, mais de faire en sorte que au milieu de la gâteau, même s'il coupe, il va voir le nom Freda. Il va voir le nom Freda dans le gâteau. Et il a raconté après que, voilà, j'ai eu votre message et j'étais très content que j'ai eu le gâteau, bien sûr, les bonnes nouvelles, que vous avez accouché une fille en bonne santé et tout ça. Alors, c'était une vie qu'on peut parler de ça plus que 20 minutes, on peut parler de ça pendant des heures et des heures. Mais même lui, il ne voulait pas trop parler parce qu'il a dit ça ne sert à rien de parler de passé, il faut voir l'avenir, il faut voir tout ce qui est à faire maintenant, quoi.
Oui, donc il a passé tout le temps de la guerre en Russie, puis il est arrivé finalement à Paris. Donc il a réussi à s'échapper de prison et puis à arriver donc à Paris avec sa famille après des évasions avec plein de nombreux rebondissements. Et donc à Paris, il a commencé à mettre en place de nombreuses actions, justement toujours donc pour le mouvement Lubavitch, pour aider les réfugiés, les juifs à rejoindre la France ou en tout cas quitter les camps dans lesquels ils étaient en attente.
En fait, quand il a quitté la Russie, toute seule, sans la famille, bien sûr, il a réussi d'arriver à Paris, mais tout de suite, comme son beau-père était déjà en Amérique, parce que son beau-père est parti en Amérique ensemble avec le rabbi précédent, le rabbi Yossi Yitzhak, et s'il y avait quelqu'un de la famille en Amérique, il pouvait faire le papier pour vous. Alors il arrive en Amérique, et il était tout content. Maintenant, lui, il est en Amérique, il peut faire le papier pour sa femme et ses enfants. Alors il a commencé les démarches, et pour lui, c'était OK, terminé. J'ai vécu ma vie en Russie, difficile. Maintenant, tout le monde va venir en Amérique, on va vivre normal, on va faire une vie normale. Là. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire une vie normale, mais ils essaient d'apprendre. Alors il arrive en Amérique, et il est convoqué par le rabbi à l'époque, le rabbi précédent. Et le rabbi précédent, il dit, c'était en 46, 47, il arrive, il est convoqué, il rentre au bureau du rabbi précédent, et le rabbi précédent lui dit, j'ai une mission pour vous, mon gendre. Je vais lui envoyer une mission en Allemagne pour visiter nos frères qui sont dans le camp, après-guerre, et je voudrais que vous lui accompagniez, parce qu'on ne laisse pas quelqu'un comme ça, de cette stature, va voyager toute seule. Mon grand-père, il n'a rien dit, il a dit, d'accord. Et dans sa tête, il a compris qu'il a un petit problème parce que les billets qu'il achetait pour ma grand-mère et les enfants pour venir en Amérique, eux, ils vont arriver à New York. Il y avait une île où tous les réfugiés, le bateau, il arrivait.
Ellis Island.
Ellis Island, voilà. Et il a compris qu'eux, ils vont arriver, je crois que c'était le mercredi, et lui, il va partir jeudi pour l'Europe. Mais il n'a rien dit. C'était ça un peu le soldat qu'il était. Et effectivement, ils sont arrivés le mercredi. Et tout le monde était content. Il a annoncé le nouvel qu'il lui doit partir jeudi parce qu'il aurait bien donné cette mission. Et effectivement, ils sont restés à New York, la famille. Et lui, il est parti jeudi avec le gendre du rabbi précédent en Allemagne. Et encore, il a pensé toujours que, OK, provisoirement, j'ai une mission du rabbi, etc. Mais quand il est en Allemagne, la lettre, il est dans le livre, il a eu une lettre du rabbi qui veut qu'il continue vers Paris. Son gendre va entrer à New York, mais il veut que mon grand-père il continue vers Paris pour effectivement ouvrir le bureau européen pour aider les réfugiés. Et il a commencé avec ça tout ce travail que vous avez vu dans le livre.
Oui, effectivement, là, le rabbin Gorodetsky va essayer de mettre en place, encore une fois, une vie religieuse complète et sérieuse qui soit possible donc, pour les juifs qui le veulent. Et puis, il se frotte également aux juifs des mouvements communistes qui avaient de l'influence en France à ce moment-là, après-guerre, qui avaient donc caché et sauvé de nombreuses familles. Et il va alors, pour éviter d'être mis à l'écart des instances de décision, demander aux responsables du Joint et du comité de sauvetage de réceptionner des fonds lui-même au sein de l'Union des rabbins qu'il va créer à ce moment-là pour les redistribuer. Pour ne pas être mis de côté, en fait.
En fait, il a eu la chance à Paris parce que quand il a tapé sur la porte, quand il a frappé sur la porte de American Joint, le bureau à Paris, et l'IAS à Paris, ils ont demandé « Vous êtes qui ?» parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient après guerre. Ils ont pensé « C'est encore un réfugié, le pauvre qui cherche quelque chose. » Il a dit « Je suis le rabbin Gorodetsky, je suis envoyé par le rabbi Schneerson de New York. »« Ah bon ?» Et votre nom, c'est rabbi Gorodetsky, d'accord. » Ils regardaient sur les listes des gens qu'ils connaissent et tout ça. Et ils ont tout de suite convoqué mon grand-père pour le lendemain avec les directeurs du bureau pour les réfugiés, pour les joints à Paris. Et à cet rendez-vous, je vous raconterai rapidement, à cet rendez-vous, il a dit, donc vous connaissez très bien Monsieur le rabbin Gorodetsky, il a sorti tout un dossier. En fait, pendant le travail que mon grand-père, à l'époque en Russie, pour le rabbi précédent, chaque mois, il fait un compte-rendu à son rabbi. Et le rabbi, il a fait une photocopie chaque mois de cet compte-rendu de son travail. Il l'a envoyé en Amérique à la Joint, American Joint. Alors eux, chaque mois, ils reçoivent un compte-rendu d'un jeune homme de 18, 19, 20 ans qui est en train de faire un travail merveilleux en Russie. Et quand il arrive à leur bureau à Paris et il veut faire quelque chose avec eux pour aider les réfugiés, pour eux, ça tombait du ciel quelque part, si vous voulez. Ils étaient très contents d'avoir mon grand-père avec eux. Et tout de suite, ils ont ouvert toutes les portes pour lui. Les Juifs américains, ils ont aidé beaucoup à financer tout ce qu'il y avait nécessaire à l'époque, tout. Il y avait reconstruit, comme vous connaissez, reconstruire la vie juive, la vie matérielle aussi. Et ils ont beaucoup aidé à l'époque.
Et alors effectivement, il va mettre en place de nombreuses actions. Alors le même genre d'action qu'il avait mis en place en URSS, il va mettre en place des écoles religieuses, des écoles rabbiniques. Il va essayer de former des institutrices aussi. Et puis il va s'occuper de l'accès à la nourriture cachère, de s'assurer que des boulangeries soient disponibles pour fabriquer donc le pain cachère. Et puis il va aussi s'arranger pour trouver des emplois aux juifs réfugiés qui arrivent, des emplois qui leur permettent de respecter leurs obligations religieuses. Là aussi, il y a tout un souci de respecter une vie spirituelle et religieuse au quotidien qui se traduit dans son travail, en fait.
Exactement. Comme vous avez dit, il est obligé d'assurer le matériel autant que le spirituel. Le matériel, par exemple, il a loué plusieurs hôtels sur la place de Paris et carrément, il donne à chaque famille une chambre. Et côté spirituel, il a, avec l'aide d'American Joint encore, il faut répéter, ils ont acheté une école pour des garçons à Brunois, une école pour les filles à Yer, Petivka. Et ces deux écoles, tous les enfants de réfugiés, ils ont parti entre ces deux écoles à l'époque. Et les parents, ils ont resté pour trouver le moyen de continuer à assurer la vie, quoi. Et côté matériel, comme vous avez, tout ce que vous avez mentionné, c'est tout à fait vrai. Il a vraiment fait un travail tout seul de jongler toutes ses responsabilités.
Alors, il y a un autre élément qui est intéressant dans l'œuvre du rabbin Benjamin Gorodetsky, c'est la question des siffrés Torah qui ont été volés par les nazis et donc qui sont restitués par le Joint. Et lui va imaginer justement à la fois une manière de restaurer ces siffrés Torah volés et puis de créer une génération de spécialistes capables de les restaurer, c'est-à-dire qu'il va essayer de lier, là encore une fois, le spirituel au travail, à la vie quotidienne.
Le gouvernement d'Irlande, ils ont récupéré 1200 siffrés Torah. Et ils ont demandé que mon grand-père il trouve une solution pour réparer et distribuer, redistribuer dans la communauté. Il a pris le temps, il a mis en place une école qui a formé les sofrim, les scribes, comment on dit, les scribes. Et eux, ils ont vérifié tous ces Sefer Torah. Et effectivement, après, ils ont distribué les 1200 Sefer Torah, eux qui s'étaient cachés, bien sûr, à tous les synagogues qui commencent à ouvrir après-guerre, quoi.
Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu aussi de la fin de ce que votre grand-père a mis en place, puisqu'il a aidé aussi au Maroc, en Tunisie, en Israël et ailleurs, à garantir toujours cet accès à la vie religieuse pour les juifs Lubavitch.
En 1949, il y avait une demande de la communauté juive de Maroc, au rabbi précédent de Lubavitch, d'aider les communautés dans nos structures. Bien sûr, il y avait beaucoup de rabbins à Maroc, c'était pas ça le problème. C'était plus dans nos structures, d'aider dans nos structures, les écoles, de construire des mikvaot et tout ça. Et le rabbin précédent a demandé à mon grand-père de voyager à Maroc, de voir avec le rabbin sur place comment on peut apporter, comment Lubavitch peut apporter cette aide. Et à la fin de cette... Comme mon grand-père, il a eu cette instruction du rabbi précédent. Il a dit, quand vous reviendrez de cette mission, je voudrais que vous continuiez ce dossier avec mon gendre, qui était le rabbi, qui n'était pas encore le rabbi. Et effectivement, mon grand-père, il est parti. C'était un mois avant que le rabbi précédent il ait disparu. Et quand il est revenu, quand il est retourné de cette mission, c'était déjà le rabbi devenu rabbi. Alors, il a eu ce petit signe, mais il n'a pas compris à l'époque. En fait, sur place, tout le grand rabbin de Maroc, il a demandé à mon grand-père s'il peut aider, surtout dans toutes les petites villes, partout à l'époque, il y avait des juifs grâce à Dieu dans toutes les villes en Maroc. Et il a fait ça, il a commencé par envoyer des gens sur place pour aider les différents émissaires pour construire des écoles et des mikvot et le reste.
Merci encore. Je rappelle, Yosef Gorodetsky, que les mémoires de votre grand-père, Une lumière dans la nuit, viennent d'être publiées en français aux éditions du Bureau Louavitch européen, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du Joint. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org et le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.